Monsieur le directeur, mes chers confrères, ma chère madame, mesdames et messieurs, nous avons ce soir le plaisir d'accueillir à l'espace Écureuil, donc sous la bienveillante protection de la Caisse d'épargne PACA, l'Écureuil, madame Catherine Lecomte, qui est ancienne présidente de l'Académie de Versailles, notre équivalent à Versailles, qui est doyenne honoraire de la faculté de droit de Versailles, Versailles-Saint-Quentin, et qui est spécialiste d'histoire du droit. Donc c'est une juriste, historienne, et elle vient nous parler d'un sujet particulièrement intéressant qui est Versailles, sa ville, Versailles, capitale de la France, avec un point d'interrogation. Vous savez comme moi que Versailles était capitale de la France sous l'Ancien Régime, même si elle n'a jamais été officiellement la capitale, mais elle a été de facto. Et puis qu'ensuite, au moment de la Commune, Thiers et son gouvernement, en 1870-61, se sont réfugiés à Versailles devant la révolte communarde à Paris, qui va durer un certain temps jusqu'à ce qu'à partir de Versailles, ils puissent rétablir l'ordre et le gouvernement légal. Donc, Madame Lecomte, que je remercie d'être venue de Versailles jusqu'ici, le train est très direct, mais le voyage est quand même assez long. Je la remercie d'avoir accepté notre invitation et de venir nous parler de Versailles, capitale de la France, avec un point d'interrogation. Ma chère amie, je vous donne la parole.
Merci, monsieur le professeur. Merci, monsieur le secrétaire perpétuel. Monsieur le directeur, merci de m'accueillir. À vous, cher ami, merci de m'avoir accueilli et de m'avoir fait découvrir les charmes de Marseille. Je voudrais aussi, si vous me le permettez, vous remercier tous d'être là ce soir pour entendre parler de Versailles. Et je voudrais aussi avoir une pensée pour deux des premiers académiciens marseillais qui m'ont accueilli, Odette Singlat et Georges Berouin. Alors, Versailles, capitale, est-ce un défi d'avoir choisi ce titre? Est-ce une conviction? Versailles, c'est un nom magique. On y voit tout, évidemment, le grand roi. Soleil triomphant, roi de gloire, roi de guerre, et le vieux roi dévot. On y voit aussi le roi mécène, par goût, par dessein politique. On y suit un peu plus tard Louis XV, aussi célèbre pour son libertinage, que pour son administration. On imagine avec enchantement le bouillonnement culturel qui a concouru à l'éclat de la civilisation française d'hier et pourquoi pas d'aujourd'hui. Un de nos contemporains, a écrit « En nous donnant Versailles, Louis XIV a enrichi la France. Les dépenses du grand roi ont valu à l'univers un château que personne n'oserait ne pas admirer. » En cheminant dans Versailles, et je vous convoque pour ce cheminement, dans le palais et en ville, de lieu de mémoire en lieu de mémoire, on entend se répondre en écho les voix qui, dans le secret du cabinet du Conseil du roi, ont préparé le retentissant discours du lit de justice du 3 mars 1766, ultime affirmation solennelle d'une souveraineté absolue et indivisible, et en écho, les voix qui, à l'hôtel des menus plaisirs, en 1789, dans le vertige et l'ivresse du transfert de la souveraineté, ont osé affirmer que la nation ne peut recevoir d'ordre. Versailles est bien un lieu magique, mythique, mais de là à dire que c'est une capitale, il y a peut-être encore beaucoup de chemin. Nous savons tous que la monarchie avait été itinérante, que les rois gouvernaient depuis Blois, depuis Fontainebleau, mais que le cœur du pouvoir demeurait Paris. À titre d'exemple, Henri IV, avait été obligé de conquérir sa capitale, de conquérir Paris, après les drames noirs des guerres de religion qui avaient eu pour Seine les rives de la Seine. Nous avons tous en mémoire, bien sûr, la nuit d'hiver glaciale au cours de laquelle Anne d'Autriche et Louis XIV se sont réfugiés à Saint-Germain. C'est un événement important pour la suite de ce que nous verrons ensemble. Ils ont fui une capitale en proie aux factieux, en proie aux frondeurs. Mais jamais Paris n'a été décapitalisé, jamais Paris ne perdra ce titre splendide et convoité de capitale, siège de gouvernement, aujourd'hui siège des assemblées, aujourd'hui siège des cours de cassation, de la Cour des comptes, du Conseil d'État, des ambassades, lieu de concentration des forces dirigeantes des grandes entreprises. Alors, Versailles, une capitale. Qu'est Versailles au XVIIe siècle? Au XVIIe siècle, Versailles, c'est une halte pour les rouliers qui poussent ou qui tirent les bœufs qu'ils apportent de Normandie. C'est un village qui compte quelques hôtelleries, des cabarets, une paroisse, la paroisse Saint-Julien. On compte à peine 20 naissances par an dans ce bourg. C'est Louis XIII qui acquiert de la famille de Gondy des terres, des forêts, des marais. Il est passionné de chasse, il fait édifier un relais de chasse. Et puis, c'est Louis Dieudonné, Louis XIV, qui s'éprend de ce que le maréchal de Bassompierre appelle un chétif château, de la construction duquel un simple gentilhomme ne voudrait pas prendre vanité. En 1761, les premiers agrandissements débutent. Levaux les dirige, épaulé par une abondante, trop abondante main-d'œuvre, et parallèlement, le nôtre dessine les jardins. 3 ans plus tard, en 1664, ce sont, et j'ai honte de le dire devant vous, vous le savez tous, les mémorables fêtes des plaisirs de l'île enchantée qui marquent le triomphe de Louise de la Vallière. À la même date, le village que j'évoquais il y a un instant est rasé. De grands travaux de terrassement nivellent le sol, modèlent le relief. Le roi, décidément, s'empare du terrain. Et tandis qu'il s'empare du village, de l'autre côté du château, plus loin, il s'empare des terres de ce qu'on appelle aujourd'hui le Grand Parc. Il rase des villages, Trianon, Choisy-au-Bœuf, pour y implanter des faisanderies, des gardes. 1671, il est à Dunkerque et il déclare à Colbert, très réticent, qu'il veut rendre le bourg de Versailles le plus florissant et le plus fréquenté qu'il se pourra. Et qu'à cet effet, il fera des dons de place à ceux qui voudront y bâtir et de surcroît, il les exemptera d'impôts et il leur accordera même le privilège de ne pouvoir voir leurs biens ni hypothéqués, ni saisis. Évidemment, quelques marchands s'empressent de se faire octroyer un don de place et de bâtir. La ville est bien née d'une décision royale. Elle est l'écrin du château. Elle devient, année après année, une capitale commerçante, un lieu de transaction. Et deux chiffres. En 1671, on comptait 600 âmes. En 1715, on dénombre 46 000 habitants. Il y a eu une énorme affluence de chalands. La population s'est sédentarisée. Des dynasties commerçantes et bourgeoises commencent à se former. L'accélération démographique s'est surtout ressentie à partir de 1682, date à laquelle le transfert du roi, de la cour, du gouvernement est définitivement fixé à Versailles. Louis XIV ne retournera à Paris oserais-je dire qu'accidentellement, pour des fêtes, pour des cérémonies, pour des actes politiques de grande envergure. Comme si Louis XIV avait attendu la mort de Colbert. J'ai dit tout à l'heure que Colbert était réticent. Colbert évitait Versailles. Et il évitait Versailles à tel point qu'il multipliait et encourageait à Paris les constructions de portes triomphales. Il appuyait la transformation du Louvre. Il appuyait l'édification du Collège des Quatre Nations, du Val-de-Grâce. Et il encourageait Louvois dans la construction par mansarde de l'hôtel des Invalides. Il voulait indiscutablement, dans la capitale, Paris, manifester la gloire du roi. Et pourtant, depuis déjà plus de 10 ans, Colbert avait à Versailles, dans l'enceinte du château, son pavillon donnant sur la cour intérieure du château. Il occupait l'aile nord, tandis que Michel Le Tellier et sa nombreuse descendance et ses collatéraux étaient dans l'aile sud. En parallèle de la vie de la cour, les ministères et les bureaux investissaient le château, je viens de le dire avec l'exemple de Colbert et de Tellier, mais ils investissaient également la ville. Ainsi, en 1672, on achète l'hôtel de Guise, un peu en contrebas de la place d'Armes, pour y installer le chancelier. Le grand commun est bâti à partir de 1682. Les hôtels seigneuriaux, mais soyons vite bridés dans notre imagination, d'apparence ô combien modeste, les hôtels seigneuriaux se multiplient et le roi pose, parallèlement toujours, la première pierre de l'église de la paroisse Notre-Dame de Versailles. Versailles est bien devenu, dans les années 1680, le lieu d'où Louis XIV va émettre ses foudres, va dicter la stratégie de ses armées, va dicter la stratégie de sa flotte. On sait que c'est aussi l'époque où Louis XIV lui-même ne se présentera plus sur les champs de bataille. C'est à partir de Versailles que s'affirme la modernité de l'État, sa permanence transcendante, glorieuse. Le spectacle de la cour y contribue, les fêtes, l'architecture, tout confirme la magnificence du roi qui, évidemment, ne peut que rejaillir sur sa ville. Je reviens un peu en arrière, vers 1670, on comptait 88 échoppes en ville. 20 ans plus tard, 400. En 1688, le curé célébrait 160 mariages. Il a du travail, puisqu'en 1715, il en célèbre 2 fois plus. Le développement est exponentiel. En 1670, on comptait 77 maisons. En 1715, il y en a plus de 800. Le château a indiscutablement été le moteur du peuplement. Versailles, à la fin du XVIIe siècle, prend rang parmi les villes les plus grandes du royaume, ne dépasse pas Marseille, soyez rassurés. Et cette situation est d'autant plus singulière que Versailles n'est qu'à 4 lieues de Paris. Et tandis que Versailles est à près de 45 000 habitants, Paris ne compte à cette même date que 500 000 habitants. Paris décapitalisé par Versailles? Peut-être. Peut-être car, lorsqu'on fait de l'histoire urbaine, on remarque que le sort des villes de France, des grandes villes de France, n'a jamais été lié et n'a jamais été inscrit en parallèle de la mort d'un roi. Or, la mort de Louis XIV décide du sort de sa ville. Effectivement, nous savons tous dans quelles conditions Louis XIV s'éteint le 1er septembre 1715. Nous savons aussi tous, et vous me pardonnerez de le rappeler, j'ai honte de le faire, que Louis XV, rapidement, est exilé ou installé à Vincennes. Nous savons que Louis-Philippe, en dépit des exhortations de Saint-Simon et de sa mère, la Palatine, se rejoint Paris, l'accompagne, logiquement, les courtisans, les marchands. Mais aussi dans le sillage de ces courtisans, dans le sillage de ces marchands, des foules de familles désœuvrées, des domestiques, des cochers, des postillons, qui prennent la route de Paris, pensant bien à Paris, faire fortune, tout comme, à leurs yeux, ils ont fait fortune à Versailles. Dorénavant, le Conseil du roi se tient à Paris, les ministères ont rejoint des bureaux parisiens, les fêtes et les débauches se jouent au Palais Royal. Et en quelques mois, il n'y a plus à Versailles que 22 000 habitants. En 1720, c'est pire, 17 000 habitants hantent un décor de théâtre, devenu immense pour une ville déserte. Les Versaillais demandent de l'aide, ils crient famine, peut-être plus que nécessaire, enfin, bon. On leur accorde notamment, par arrêt du Conseil, la résiliation de leurs baux et la reconduction au prix fixé avant le départ de la cour. De la même manière, puisqu'il n'y a plus d'affaires à traiter, il y avait 5 notaires à Versailles, 2 études fermées. Un déclin aussi brutal, je le répète, est unique dans l'histoire urbaine de la France. Cela attesterait bien du rôle de capitale et de la place de capitale qu'avait Versailles. En avril 1722, l'espoir renaît. On apprend que le roi annonce son retour. Alors vite, on dépoussière, on repeint les volets, et en quelques semaines, 8000 personnes s'arrachent à prix d'or les logis, les échoppes ouvrent, la ville est vraiment dépendante du plaisir du roi. 1722, on sait que Louis XV demeurera à Versailles. Et en parallèle, les immigrants affluent sans cesse, le bon grain comme l'ivraie, évidemment. En 1740, plus de 50 000 habitants, donc à peine 20 ans plus tard. Plus de 50 000 habitants qui se serrent dans à peine un millier de maisons, étant entendu que les immeubles n'ont pas plus de 3 étages. L'insécurité accompagne cet accroissement de population, à tel point que le gouverneur de la ville, car Versailles est tant dans la dépendance du roi qu'il n'y a pas de maire, il n'y a pas d'échevin, il n'y a pas de bourgmestre, on peut, ou de capitoule, qu'on soit au nord ou au sud, il y a un gouverneur. Ce gouverneur, c'est Adrien Maurice de Noailles. La famille de Noailles a succédé au valet de chambre du roi depuis 1720. Il y a survivance de la charge. Adrien Maurice de Noailles, pour la première fois dans l'histoire du royaume, demande qu'un recensement soit ordonné. Un recensement pour savoir qui sont les Versaillais, combien il y a de vagabonds, combien il y a de mendiants, combien il y a de gens de passage. 1744, on affirme qu'il y a 50 000 habitants. Et la croissance se poursuit sans répit. Et la croissance se poursuit parallèlement à l'emprise de l'espace territorial par le château, par la cour, par le gouvernement. Qu'on en juge. En 1740, on avait édifié l'hôtel des menus plaisirs. Vous savez bien entendu que c'est dans l'hôtel des menus plaisirs qu'on rangeait les décors qui servaient pour les nombreuses représentations d'opéra, de théâtre. En 1757, on édifie un hôtel de la guerre. Un hôtel de la guerre, c'est-à-dire qu'on va, à partir de 1757, quasiment construire une rue des ministères. Et dans la foulée, en 1758, Choiseul, secrétaire d'État des Affaires étrangères, fait édifier un hôtel des Affaires étrangères et on transporte depuis Paris les archives qui étaient des Affaires étrangères, qui étaient bien rangées dans la capitale parisienne et qui désormais seront abritées dans cet hôtel de la capitale, je reprends votre expression, de fête versaillaise. On observe parallèlement que l'extension de la ville accompagne l'emprise territoriale du château. À partir de 1735-1740, c'est ce que nous connaissons tous sous l'appellation Parc aux Cerfs, c'est la paroisse Saint-Louis qui est bâtie. Ce sont les maisons qui se succèdent les unes aux autres. Et dans cette paroisse Saint-Louis, ce qui est à noter, c'est que de nombreux premiers commis des bureaux, donc directeurs d'administration centrale, directeurs de ministère, acquièrent des terrains, construisent ce qu'on peut appeler des gentilhommières, y installent des orangeries, y installent des potagers. Et lorsqu'ils se rendent dans leur propriété, à quelques centaines de mètres du château, eh bien ils traversent les rues commerçantes et les bruits des roues de leurs carrosses crissent autant que les colibets des marchands qui veulent attirer le chaland. Les écuyers, les commissaires des guerres, les premiers commis, les avocats au Parlement se croisent dans ces quartiers, s'installent dans des demeures opulentes et dans leurs salles de compagnie, alors que le XVIIIe siècle se déroule, ces salles de compagnie qui sont éloignées du centre névralgique du pouvoir, on commente des ouvrages. Et les ouvrages qui n'ont pas de raison de circuler officiellement ni dans la Galerie des Glaces, ni dans les appartements de Versailles. Ce sont ceux de Voltaire, ce sont ceux de Rousseau, ce sont ceux, pourquoi pas, de John Locke, puis ce sont ceux des physiocrates. Alors, quel type de commentaires ? À vous de les imaginer. La seule chose qu'on puisse dire, c'est que les livres usagés ont été prisés par les notaires au moment des inventaires après décès de ces messieurs les hauts fonctionnaires. Il y soufflerait bien dans ces salles de compagnie un air de contestation, peut-être comparable à celui qui soufflait dans les académies des provinces, qu'il s'agisse d'Arras, Robespierre plus tard, qu'il s'agisse de Toulouse, d'Aix, et pourquoi pas de Marseille, ça pourrait arriver. On y commente aussi dans ces salles de compagnie les guerres et les défaites, notamment la guerre de 7 ans. À la mort de Louis XV, 65 000 personnes peuplent la ville. L'espace urbain a doublé, mais il n'y a toujours que 1200 maisons, à tel point que l'entassement par immeuble, par appartement et même par chambre est tel et est dénoncé avec tant de vigueur qu'on ouvre un registre pour que les propriétaires ou les locataires ou les sous-locataires viennent déclarer le nombre de lits qu'ils louent par pièce. Mais à cette date, lorsque Louis XV va s'éteindre, la ville a obtenu son autonomie économique. On peut dire que si la manne d'argent de la cour contribue à son enrichissement, il n'en reste pas moins que les choses se sont inversées. Lorsque Louis XIV est mort, moins de la moitié de la population tirait ses revenus de la ville. Lorsque Louis XV va s'éteindre, plus de 60% de la population tirera ses revenus de la ville. Donc la mort de Louis XV ne scellera pas le destin de Versailles, comme la mort de Louis XIV avait signé l'arrêt de mort de la ville. Et on peut reprendre, en s'amusant, les propos qu'avait tenus quelques décennies plus tôt Charles Perrault, lorsqu'il avait déclaré Versailles, ce n'est pas un palais, c'est une ville entière, superbe en sa grandeur, superbe en sa matière, c'est tout un monde où du grand univers se retrouvent rassemblés les miracles divers. Passent les ans. C'est à Versailles que Benjamin Franklin négociera l'entrée de la France dans la guerre d'indépendance, américaine bien sûr. C'est encore à Versailles, et depuis Versailles, que seront tentées les réformes des 20 dernières années de l'Ancien Régime. Turgot y vivra des heures déchirantes, lâché par un monarque, prisonnier des coteries, enclin à ne pas se débarrasser des conservateurs. C'est à Versailles que Joseph II viendra rendre visite à sa royale sœur et au roi Louis XVI. C'est dans les antichambres de Versailles qu'à la fin du XVIIIe siècle, les parlementaires, cramponnés à leurs privilèges, s'agiteront afin de provoquer la chute et l'effondrement des réformes de Maupoux. Et tandis que la réaction nobiliaire bloque toute tentative pour éviter la dérive de l'État, en ville, les marchands bourgeois, peut-être naïfs, peut-être aveugle, trop affairé à gagner de l'argent, convoite les beaux partis que représente la cour, mais attention, ne rêvons pas, ce ne sont pas les grandes familles qui les intéressent, ce sont les titulaires d'office à la maison du roi. Il convoque, il convoite les beaux partis que représentent ces messieurs, ce qui leur donne, s'ils arrivent à caser leurs filles, des positions à leurs yeux prestigieuses, prestigieuses vues du marché Notre-Dame, mais un peu miteuses vues de la Galerie des Glaces. Il n'en reste pas moins que lorsque le règne de Louis XVI se déroule, les contemporains pourraient et peuvent écrire que c'est à Versailles que la monarchie a été portée à son apogée, que l'art de gouverner s'est déployé avec majesté. L'architecture du château a contribué à extérioriser dans la pierre le génie d'une civilisation. Le plan d'urbanisme de la ville est un modèle. Un modèle d'ailleurs qui sera copié à Washington, qui sera copié à Karlsruhe. On sait que Pierre le Grand était venu visiter Versailles. On mesure toute la portée symbolique du décor, le décor du château, le décor de la ville. Ce décor suffit à lui-même à retracer l'évolution politique de 1661 à 1789. On va de la gravitation autour d'un roi identifié au soleil, vers ce que nous, pardonnez-moi, historiens du droit, nous appelons la césure entre le corps réel du monarque et le corps imaginaire, lorsque disparaît l'unité de lieu entre la vie publique et la vie privée. Parallèlement, les enfants de France ont tous été baptisés à la paroisse Notre-Dame. Et lorsque, faisons un saut dans le temps, Louis XVIII puis Charles X seront au pouvoir, ils pourront contempler, dans les registres paroissiaux de l'église Notre-Dame, leur acte de baptême. Et bien entendu, puisque tout se joue à Versailles, c'est de Versailles que partira le cortège des députés le 5 mai 1789. Oui, c'est à Versailles que Louis XVI, prenant le contre-pied de son royal aïeul, Louis XIV, qui s'était bien passé des états généraux. C'est à Versailles que Louis XIV signera l'acte de convocation des états généraux. Versailles était devenue cette capitale. C'était la victoire de l'état royal sur la Fronde. Versailles va être la furie des femmes du peuple envers le roi. Au printemps 1789, les Versaillais ne mesurent pas encore l'ampleur du désastre qui va les assommer. Au contraire, ils attendent des députés, ils proposent leur chambre, ils proposent des logis. Il y a 1300 personnes plus leurs suppléants à abriter. On attend Robespierre, on attend Bailly, on attend Tourret. Les préparatifs s'accélèrent. On aménage l'hôtel des menus plaisirs, c'est la salle la plus vaste que l'on puisse avoir. Les députés arrivent, une procession est organisée, sur le parcours on tend des tapisseries devant les devantures des maisons, le cortège se forme, il descend du château, va vers la paroisse Notre-Dame, puis va vers la paroisse Saint-Louis où l'office inaugural est célébré. Enfin, les députés, épuisés parce que ça a duré de longues heures, entre dans la salle des menus plaisirs et nous savons bien entendu qu'ils écoutent le discours du roi, le discours du contrôleur général des finances, le discours du garde des sceaux parentin. Les séances se succèdent, l'atmosphère est étouffante, on dit même que quelques députés y laissent leur vie parce que c'est mal aéré, il fait une grosse chaleur, tout se concerte pour rendre l'atmosphère insupportable. Les places sont mal distribuées, les rangs des préséances ne sont pas observés, on en discute à perdre haleine. Lorsqu'on n'en discute pas dans l'enceinte des menus plaisirs, on en discute au café Amaury, là où sera fondée la Société des Amis de la Constitution, qui anticipe le club des Jacobins. Et le 17 juin, on voudrait bien pénétrer dans la salle des menus plaisirs. Elle est fermée sur ordre du roi. Et là, qu'à cela ne tienne, on court, on se précipite. Il y a une autre salle qui peut accueillir les députés du tiers. C'est la salle du jeu de paume. Et c'est le dénouement, si j'ose dire, enfin le dénouement. L'un des dénouements. On y proclame l'Assemblée nationale. On assure et on jure qu'on ne se séparera pas d'avoir donné une constitution à la France. Le pouvoir des mains du roi a définitivement glissé dans celle de la nation. Versailles, capitale. Le 22 juin, c'est dans la cathédrale Saint-Louis que retentiront les propos du Mirabeau. Nous sommes ici par la volonté du peuple et nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. À l'Assemblée constituante, on se met au travail. Il faut rédiger une constitution, et nous le savons tous, la question cruciale est posée, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen doit-elle précéder la constitution, être dans la constitution, l'accompagner? Dans l'enthousiasme révolutionnaire, c'est toujours à Versailles, salle des menus plaisirs, que l'abolition des privilèges est solennellement proclamée. Les bureaux de la constituante se forment. Les multiples projets de déclaration des droits de l'homme s'accumulent, on discute à perdre haleine. Dans la première quinzaine d'août, les séances se succèdent à un rythme effréné. Enfin, le 26 août 1789, à Versailles, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, message, dit-on, envoyé à l'univers, est solennellement proclamée, et le 1er octobre, elle doit être présentée à l'acceptation du roi. Ce même 1er octobre, un banquet a lieu dans la salle de l'Opéra Royal. C'est le banquet des gardes du corps. Il donne lieu à des échanges de propos qu'on qualifiera, pour rester correct, de séditieux. On sait qu'à Paris, les troubles sont allés bon train. Ils sont même à leur paroxysme. 1er octobre. Le 4 octobre, Lafayette loge à l'hôtel de Noailles. L'hôtel de Noailles est en face de l'hôtel qui avait été bâti pour la marquise de Pompadour. Il est donc à quelques pas du château. Il passe la nuit, mais il est dans l'incapacité d'endiguer la foule. Et le 5 octobre, nous le savons tous, les femmes, en furie, exigent que le tyran Capet fixe son domicile à Paris. Et ce même 5 octobre, le curé de la cathédrale Saint-Louis fait savoir au roi qu'il faudrait qu'il mette la main à la bourse, car la présence des députés augmente terriblement les dépenses de vin de messe. Le roi, nous le savons, le boulanger, la famille royale, prennent l'avenue de Paris, et sans doute, prophète Madame Élisabeth, en passant devant le domaine que dont Louis XVI lui avait fait cadeau, Madame Élisabeth a ces mots: « Adieu, mon cher Montreuil, c'est ce domaine, que je ne reverrai jamais. Pourquoi ?» lui dit le roi. La famille royale est à Paris, nous le savons. Les Versaillais, pardonnez-moi, ne perdent pas le nord. Ils adressent leur doléance, qui n'ont rien à voir avec le cahier de doléance. Et leurs doléances sont rédigées de la manière suivante. Versailles est destiné au séjour des rois qui l'ont construit. Elle est l'ornement du trône. Elle vous appartient plus que le reste de votre empire. Elle est immense par son étendue, déserte sans population. Le marasme est important, il nous faut des compensations. Compensation, de quelle nature? Monétaire à cette époque, sûrement pas. En 1789-90, Versailles devient chef-lieu du département de Seine-et-Oise. Est-ce une compensation? Il faudrait poser la question aux actuelles autorités départementales. En 1793, on déclare que Versailles a bien mérité de la patrie. Mais parallèlement, un représentant en mission, Crassus, fait démolir la grille royale, cette fameuse grille royale qui vient d'être restituée et dont la France entière a entendu parler. Et Sieyès, le bon abbé Sieyès, reçoit comme récompense nationale la ménagerie. La ménagerie, c'est là qu'est située aujourd'hui la lanterne, dont je pense, même à Marseille, on entend souvent parler, lorsque le président de la République y séjourne. La Révolution s'achève. On sait que Napoléon ne fréquentera pas Versailles. Il y fera des travaux, mais il n'y habitera pas. Marie-Louise y séjournera peut-être un peu. On sait aussi que Louis XII, Louis XVIII et Charles X y viendront, sans plus. Ils n'y habiteront pas. Versailles est trop associé à l'Ancien Régime dans ses vices et non pas dans ses vertus. Et l'un comme l'autre aurait trop peur qu'on puisse les assimiler à l'Ancien Régime. Un semblant de renaissance en 1837. En 1837, Louis-Philippe inaugure en grand, avec beaucoup de faste, un musée dédié à toutes les gloires de la France. Il est venu plus de 300 fois à Versailles surveiller les travaux. On y compte 1500 statues, 3000 peintures. Est-ce à dire qu'en 1837, Versailles retrouverait un titre de capitale, mais bien écorné, elle ne serait que la capitale de l'histoire de la France. En 1848, Lamartine prend le château sous sa protection. Versailles devient une ville de garnison sous le Second Empire. C'est une ville calme qui a été chantée par des auteurs que nous connaissons tous, et je ne vous ferai pas l'affront de les citer. Vient la chute du Second Empire. Mais la chute du Second Empire, c'est une nouvelle page qui va s'ouvrir pour une ville provinciale, repliée sur elle-même, qui n'est plus monarchiste ni monarchique, car des travaux menés sous la houlette d'un professeur de lettres de l'Université de Nanterre permettent de dire qu'il y a bien à Versailles un courant républicain affirmé en 1870, n'en déplaise aux Versaillais, qui ont vilipendé un maire, Charles Chevret Rameau, républicain, disant qu'il était le produit du hasard. Non, il a été élu par les républicains. Bon, je suis un peu taquine, je ne sais pas si tous les Versaillais apprécieraient, enfin, c'est une réalité historique. En 1870, c'est la défaite de Sedan. Mais la défaite de Sedan, c'est l'occupation du nord de la France par les Prussiens. Et un Versaillais écrira en 1871, lorsque les Prussiens partiront, « Nous avons vécu 174 jours en Prusse ». Alors qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie tout simplement que dès le mois de septembre 1870, les Prussiens ont pris possession de la ville royale. Et ils ont pris possession de la ville royale car ils ne pouvaient pas s'installer à Paris, qui, l'une d'entre vous me le rappelait tout à l'heure, commençait à être très secouée par les troubles qui, plus tard, donneront lieu à la Commune. Et de toute façon, Paris était soigneusement gardé. Il n'était pas question que les Prussiens y entrent. L'arrivée des Prussiens, c'est l'installation à l'hôtel de la préfecture du prince royal. C'est l'institution de Bismarck dans une très belle maison, dans ce qu'on appelle aujourd'hui la rue de Provence. Pour ceux d'entre vous qui ont eu l'occasion de venir à Versailles, elle est à vol d'oiseau à 900 mètres du château. C'est l'installation de tout l'état-major prussien qui n'est pas resté à Reims. C'est aussi l'installation de centaines d'officiers, il faut bien qu'ils se logent quelque part. La ville est occupée. La place d'armes prend une allure de champ d'artillerie, la ville se transforme en caserne, les logis des citadins sont investis. Versailles est coupé de Paris, curieusement également isolé de la province, mais le ravitaillement ne manque pas, parce que comme on ne peut pas ravitailler Paris, les convois arrivent et s'arrêtent à Versailles. Les dépenses sont exorbitantes, la municipalité frémit. De surcroît, il y a des arrivées continuelles de convois blessés qui viennent de Paris. Tous les matins, il y a des revues au pas de loi devant le château. On transforme la galerie des glaces en ambulance. On est très loin de la belle cité endormie, au charme peint par Corot, au charme décrit par Honoré de Balzac. On en est fort loin. On a même, en Seine-et-Oise, comme dans d'autres départements du nord de la France, un préfet prussien. Et alors ce préfet prussien, qui a un nom, excusez-moi, imprononçable, von Brauchwitz, est décrit, ce qui veut bien dire qu'à l'époque, la fibre anti-prussienne devait être forte, comme un homme blond qui se penchait très bas. Mais le préfet prussien a aussi une bonne connaissance des institutions françaises. Il place dans les arrondissements des sous-préfets prussiens. Il entend se faire obéir par les hommes de la préfecture, mais les chefs de service de la préfecture désertent. Ils seront même arrêtés et deux d'entre eux emprisonnés en Allemagne. Et quant au préfet prussien, tout heureux, sans doute, d'être dans ce palais auquel j'ai pensé quand je suis venu à votre invitation il y a quelques années pour la conférence de la Méditerranée, il a quelques similitudes avec le fronton du palais du Pharaon. Et le préfet prussien s'installe là, il trouve le courrier, enfin les feuilles de papier au nom du préfet, il est tout content, il les utilise, d'autant que sur les feuilles de papier est écrit « conseiller d'État ». Alors donc le préfet prussien envoie ses ordres et ses circulaires, pensant qu'il est également conseiller d'État. Bon, Versailles va enfin être libéré après 174 jours. La population est soulagée. Elle commence à penser qu'elle est à nouveau chez elle. Mais c'est sans compter avec un autre événement. L'autre événement, nous le savons, c'est l'élection de l'Assemblée nationale en janvier 1871, qui a lieu à Bordeaux. À Bordeaux parce qu'on ne peut pas s'installer à Paris, et qui, dès qu'elle est élue, se demande bien où elle va pouvoir tenir ses séances. Alors on cherche, on propose Fontainebleau, trop éloigné de Paris, pas assez commode, et on propose Bourges, puis on propose Versailles. Alors Versailles, en 1871, est rejeté par un certain nombre de députés, car si on s'installait à Versailles, dit-on, on rejetterait l'œuvre révolutionnaire. Il n'en reste quand même pas moins, car là, après un beau discours d'Adolphe Thiers, qui vous est cher, enfin du moins, félicité d'homme, après un beau discours d'Adolphe Thiers, par 461 voix, c'est beaucoup, contre 104, les députés votent leur transfert et le transfert du gouvernement à Versailles. Charles Chevret-Rameau, dont je parlais tout à l'heure, député, revient et est dans l'obligation de dire à son conseil municipal qu'on accueillera le gouvernement et l'Assemblée. Il craint, il redoute un peu les réactions, mais il pense apaiser les réactions en assurant ses compères au conseil municipal qu'ils disposeront d'une loge de 8 places à l'Assemblée pour assister aux séances. Les Versaillais, quant à eux, apprennent avec une relative aisance que l'Assemblée va venir, parce qu'ils s'imaginent que la présence de l'Assemblée et du gouvernement va leur permettre de faire fortune de la même manière que la présence de la Cour leur avait permis de s'enrichir. Et ils vont jusqu'à dire que Versailles a vocation à être la capitale de la France. Mais brusquement, leurs espoirs sont douchés, j'allais dire inondés. Enfin, leurs espoirs sont déçus. Car à Paris, la commune éclate. Et c'est à Versailles, et vers Versailles, qu'on dirige les blessés, les prisonniers. C'est vers Versailles qu'on dirige les réfugiés. Et la ville va être douloureusement éprouvée. C'est vers Versailles qu'on va diriger également les soldats. Et on va compter rapidement dans Versailles quasiment autant d'habitants sédentarisés que de populations venues s'installer là épisodiquement, dans des baraquements, dans châteaux, dans les écuries, dans tous les bâtiments publics et dans des tentes le long des allées. La cité, néanmoins, devient une ruche administrative. Thiers est installé à l'hôtel de la préfecture. Il a donc pris la suite des Prussiens et la suite du préfet. Le préfet, lui, a été prié, le préfet français, a été prié de laisser la place à Adolphe Thiers. C'est à la préfecture qu'Adolphe Thiers donne des réceptions et les badauds se placent devant la préfecture pour voir qui vient et comment les choses se passent. Dans le château, 135 pièces sont mises à la disposition des ministres et des parlementaires. Jules Grévy est installé dans le bureau de Louis XV. Dufort, le garde des Sceaux, occupe des appartements qui étaient ceux de Saint-Simon. Quant à l'Assemblée, elle est installée dans l'Opéra, dont nous avons tous récemment entendu parler, et pour plus de confort, on repeint la décoration de l'Opéra, qui était bleu et or, et on la peint dans les couleurs à la mode, c'est-à-dire bordeaux et vert. On met des fauteuils peut-être plus confortables, et surtout, comme il n'y a pas d'éclairage, on perce, un peu comme ici, on perce une espèce de rond qui permet de faire entrer la lumière du jour. L'entrée des députés se fait par la... L'entrée des députés, se fait par la cour de la chapelle, donc chapelle opéra, ce qui permet aux journalistes d'être sur le trottoir et de guetter les sorties des plus dynamiques des députés, de ceux qui ont pris la parole, pour être au fait des événements. Ce qui n'est pas sans créer de perturbations dans l'ordre public et ce qui amènera à la création d'un nouveau commissariat payé par la ville, mais à cause de la présence des députés et du gouvernement. C'est alors que une nouvelle vie va commencer à Versailles, avec cette présence de l'Assemblée, cette présence des ministères. Cette nouvelle vie repose la sempiternelle question du logement. Où loger les députés? Même si certains d'entre eux utilisent le train qui n'a que 30 ans, le premier train, 1840, et tentent de se rendre à partir de 1860, fin 71, début 72, quotidiennement, de Paris à Versailles. Il n'en reste quand même pas moins que les députés ne sont pas nécessairement argentés, refusent de payer leurs propriétaires, les propriétaires se retournent vers la ville, et la ville se retourne vers l'État. Il s'ensuit des querelles que vous imaginez assez facilement. Le maire va jusqu'à intimer l'ordre à l'État de payer les propriétaires et déclare que, le cas échéant, il soutiendrait ceux de ses concitoyens qui refuserait de céder à un ordre de réquisition. Il est très déterminé. Thiers dira d'ailleurs qu'il n'a jamais eu d'ennemis ou d'adversaires plus farouches. Mais Rameau ne cède pas et déclare à Thiers, déclare à la Chambre, que la ville de Versailles supporte seule des charges qui incombent à la nation tout entière et que les Versaillais éprouve un sacrifice qui est digne de celui d'une capitale. Il s'agit également de ravitailler cette ville. Il y a des officiers, il y a des soldats, ils sont toujours là, il y a les députés, il y a le personnel des assemblées, il y a les fonctionnaires, il y a les ministères. Alors, ravitailler, pourquoi pas? Mais qui va payer aussi le transfert des bœufs, des porcs, des moutons, de la farine, venue de l'Ouest, venue du Poitou? Alors, dans les archives, on trouve des pièces, et des pièces qui sont intéressantes. On trouve notamment une pièce, en mars 1874, du trésorier payeur général de la Mayenne, qui déclare avoir avancé les fonds nécessaires à un envoi de bœufs, et qui met en demeure la ville d'acquitter. La ville, quant à elle, transfère cette facture à l'État qui refuse de payer. Le conseil municipal va exiger une indemnisation. Elle tarde à venir. Alors, logement, ravitaillement, tout cela entraîne naturellement des questions de salubrité, police de la salubrité. D'autant que, à la suite de la présence des individus, je dis des individus parce que je ne veux pas prendre de position politique, chassé par la commune. La fièvre typhoïde s'est déclarée. La présence de la soldatesque, les convois de bœufs, ce sont des immondices plein les rues. Qui va assurer le nettoyage de la ville? Je repense à une conversation que nous avions tout à l'heure. Qui va assurer le nettoyage de la ville? Le conseil municipal ou l'État? Qui va prendre les mesures pour éviter les épidémies? Qui va allouer des crédits supplémentaires à l'hôpital civil? Alors Versailles, capitale? Oui, mais à quel prix? Versailles est une ville refuge, c'est une ville carcérale, c'est un avant-poste militaire, c'est un hôpital de campagne, mais on écrit dans la presse, on l'écrit dans la presse, Versailles est la capitale de la République. On va même jusqu'à écrire dans la presse, Versailles est devenu un petit gouvernement auquel s'adressaient tous ceux qui avaient affaire au vrai gouvernement. Et notre municipalité, prenant conscience des circonstances, a répondu à toutes les demandes, jusqu'à en négliger la gestion ordinaire des affaires. Les Versaillais, décidément, avaient beaucoup d'altruisme. Le maire doit également assurer l'ordre public, donc la police. Or, le surcoût entraîné par la création d'un énième commissaire de police, que j'évoquais tout à l'heure, doit-il peser sur la ville ou doit-il peser sur l'État? Les sergents de ville qui ont été recrutés depuis 1871 doivent-ils être payés par la ville ou par l'État? Les échanges de correspondances entre la préfecture et la mairie sont incessants. Ils sont même quelquefois un peu brutaux. Tout ceci entraîne bien sûr aussi une augmentation des prix, la foule manifeste. Donc l'ordre public, la sécurité publique sont en cause. Les employés communaux sont harassés de travail, réclament des augmentations. Qui va assurer le coût des augmentations? Et à ce moment-là, l'État répond que Versailles, la ville, doit assurer le coût des augmentations car elle a l'honneur d'abriter la capitale constitutionnelle de la République. On trouve le terme dans des documents échangés entre la ville et le gouvernement. Et quant à l'opinion publique? L'opinion publique qu'on suit, il vaut mieux savoir quels sont les partis politiques qui pourraient se réveiller, surtout les bonapartistes, on n'en veut pas. Mais est-ce que l'opinion publique, c'est l'opinion publique locale ou c'est l'opinion publique nationale? Est-ce que les réunions privées, bien sûr, et non pas publiques, est-ce que les réunions sont des réunions limitées au cadre de la cité ou est-ce qu'elles sont à l'échelle du pays? Quand on recense des groupes de bonapartistes, est-ce s'agit-il de bonapartistes versaillais ou s'agit-il de déçus après l'échec de Napoléon III? Lorsqu'on poursuit les légitimistes, ces légitimistes sont-ils des Versaillais ou sont-ils des tenants de la gauche dynastique et surtout, sont-ils ceux qui ont poussé le comte de Chambord à vouloir reconquérir le pouvoir? Lorsqu'en 1877, au mois de mai 1877, il y a de l'agitation dans Versailles, est-ce que ce sont les vulgaires Versaillais qui s'affolent ou est-ce qu'au contraire c'est une opinion publique plus ample qui vilipende et critique MacMahon et qui soutient Jules Grévy? Il n'en reste quand même pas moins que le maire doit veiller au maintien de l'événement de l'ordre public. Et lorsqu'à Versailles viennent en visite le grand-duc Michel, le roi de Bavière, lorsque Thiers reçoit des hôtes, ce sont bien les forces de police municipales qui assurent la sécurité de ces hôtes de prestige. Lorsqu'à la cour d'assises de Versailles ont lieu les procès de Rossel, de Bazaine, de Courbet, ce sont des procès limités au petit espace versaillais, où ce sont des procès nationaux, ce sont des procès d'une capitale. Lorsque les crises ministérielles se succèdent et que les curieux manifestent aux abords de l'Assemblée, ce sont uniquement des Versaillais? Non, les commissaires de police sont allés les attendre à la descente du train, à la gare rive droite. Et la voirie, à la charge de la ville ou à la charge de l'État? Car vous imaginez sans peine que tous ces déplacements de députés, toutes ces voitures, tous ces convois, tous ces immondices ne conservent pas les rues ni les trottoirs en parfait état. Par conséquent, là aussi, les litiges et les contentieux s'accumulent. Et les litiges et les contentieux vont s'accumuler de telle sorte que on aura bien du mal à savoir qui doit payer. Les entrepreneurs de travaux publics grincent des dents. Et il y a un événement de plus en plus connu, mais peu connu il y a 30 ans, qui va montrer, qui va vraiment traduire la difficulté de compréhension entre les pouvoirs de la ville et ceux de l'État, et qui va bien montrer que Versailles est une capitale sans lettres. Les députés se plaignent de la longueur, enfin de la distance à parcourir entre les gares et le château. Et ils ont l'idée géniale de demander que le chemin de fer soit prolongé de la gare jusqu'à la cour, quasiment la cour de marbre, le pied du pavillon Gabriel. Et c'est ainsi que l'Assemblée et le gouvernement bloquent tous les projets de la ville par l'intermédiaire du préfet pour éviter que le circuit des tramways soit prolongé et que les tramways puissent déposer les députés le plus près possible, notamment de leur nouvelle salle de réunion, nouvelle salle de réunion dont nous avons aujourd'hui des images régulièrement à la télévision, puisque c'est la salle dans laquelle se tient le congrès. Alors, donc, on ne peut pas prolonger les lignes de tramway. Ben, la raison va être évidente. Les députés ont obtenu l'autorisation du gouvernement afin que soit construite cette fameuse ligne, cette fameuse prolongation de la ligne de chemin de fer, de la gare jusqu'à la cour du château. Lorsqu'on le sait, dans Versailles, les pétitions circulent, l'affolement est grand, peu importe. Le fait l'emporte sur le droit. La mairie est réveillée par des coups de pioche, tout comme les habitants. On défonce les trottoirs de la rue de la Chancellerie, on défonce les trottoirs de la rue de Sceaux, on donne des coups de marteau, et on essaie, bah, par la force, d'obtenir la prolongation de cette loi. C'est alors qu'une bataille politique et une bataille judiciaire s'engagent. La ville gagnera. Le chemin de fer parlementaire ne sera jamais réalisé, grâce notamment aux signatures d'Audifray, de Berthier de Sévigny, de Dupaty et de Calme, de Dupaty de Clame, de Calonne, de l'évêque et même du préfet. La ville est sauvée. La ville est sauvée de ce désastre qu'aurait représenté cette prolongation de la ligne du chemin de fer. On met néanmoins d'autres projets à l'étude. Mais 1879, Grévy est élu président de la République. Il rejoint Paris. Et il rejoint à Paris les députés qui y sont retournés depuis quelques mois, en dépit de cette superbe salle qui avait été construite pour eux. Il rejoint à Paris les fonctionnaires qui avaient retrouvé le chemin des hôtels du boulevard du Faubourg Saint-Germain, de Versailles. A perdu son rang de capitale républicaine. Versailles accueillera désormais Marcel Proust, Robert de Montesquieu, Anatole France. Ce sera à nouveau une belle cité endormie. Jules Janin écrira Un été à Paris. Mais elle se réveillera, comme par hasard, en 1919. C'est à Versailles que le traité de Versailles est signé. Les négociations ont eu lieu dans l'hôtel du Trianon Palace. Le traité est signé dans la Galerie des Glaces. Je ne vais pas vous en dire plus, vous le savez au combien mieux que moi. Versailles n'est plus une capitale. L'a-t-elle d'ailleurs été? Elle l'est peut-être de temps en temps, pour quelques heures, pour quelques minutes, lorsqu'on y réforme la Constitution de la Ve République. Je vous remercie de votre patience.
Cher ami, nous avons appris beaucoup de choses. Là, j'ai pris cinq fiches de notes, des grandes fiches, n'est-ce pas ? Parce que, au fond, je suppose que c'est le cas pour beaucoup des assistants, beaucoup de mes confrères, nous connaissons mal l'histoire de Versailles. Et alors que j'ai beaucoup étudié, parce que ça revenait souvent au programme, la Révolution, et les grandes assemblées révolutionnaires, les actes, etc. Et on se rend compte, en vous écoutant, que la plupart des étapes de la Constituante, etc., 89, 90, se sont passées à Versailles. Donc, la ville du Roi Soleil, certes, mais ça a été aussi la ville des débuts de l'Assemblée constituante, des débuts de la Révolution. Et si elle s'endort, elle va se réveiller lorsque le gouvernement de la République ne pourra pas rester à Paris, secoué par la révolte de la Commune. Non seulement la révolte, mais les destructions, n'est-ce pas ? Paris avait cessé d'être sûr. Et c'est de Versailles que la répression, d'ailleurs, sera conduite. Alors, je crois que vous nous avez appris beaucoup de choses, et je vous remercie de la vaste documentation que vous avez rassemblée pour nous instruire. Et je pense que, dans l'assistance, un certain nombre de questions se posent, volonté d'éclaircissement, etc. Alors, qui demande la parole ? Levez-vous pour vous voir. Alors, on va vous donner une...
Elle ne marche plus.
Hein, elle marche plus. Il me faut un autre micro, là-bas au bout. C'est le docteur Bruno.
La pile HS.
Ah, c'est un petit accident technique, on n'est pas aussi équipé que la Galerie des Glaces. Ça y est ? Bien. Vous avez la parole.
Oui, madame, j'étais très intéressé par votre conférence. À un moment donné, vous avez fait allusion, et je pense à dessein, à la Fronde. Est-ce qu'on ne peut pas, sachant que la Fronde s'est produite quand Louis XIV était tout jeune, 12 ou 14 ans, je crois, est-ce qu'on ne peut pas penser qu'ayant été traumatisé, je crois d'ailleurs que c'est une idée assez classique, est-ce qu'on ne peut pas penser, en ramassant un peu la question, dire que Versailles est une conséquence de la Fronde?
Merci.
Bien entendu, vous avez mille fois raison et je vous remercie de cette question. Versailles est une conséquence de la Fronde. On a aussi dit, et alors, c'est une interprétation, on a aussi dit que Louis XIV n'aimait pas la ville. Et qu'il, alors, c'est aussi tout à fait en vogue aujourd'hui. Qu'il n'aimait pas la ville, qu'il aimait les grands espaces. On a beaucoup insisté sur le côté jardin. Et on s'appuie notamment sur cette brochure que Louis XIV a lui-même rédigée sur l'art de montrer les jardins de Versailles. Et on a beaucoup dit que la façon dont il avait soutenu le nôtre pour concevoir le petit parc, et qui avait quasiment été réalisé plus rapidement que la construction du château, était un argument qui plaidait, indépendamment de la Fronde, en faveur de Versailles. D'autre part, on a dit, mais il y a sans doute un rectificatif à apporter, qu'à Paris, il n'aurait pas pu réaliser un ouvrage architectural d'une aussi grande ampleur que le fut Versailles. Alors, après avoir écouté une conférence, il y a de ça quelques années, de Alain Erland-Brandebourg, qui a travaillé très récemment sur les conditions dans lesquelles l'hôtel des Invalides a été édifié, on peut se poser des questions. Mais il n'en reste quand même point moins qu'il fuyait Paris, et que votre question est, pardonnez-le-moi, ô combien pertinente. Il avait sûrement très vivement ressenti, et ça on le trouve dans des mémoires de contemporains, la honte et l'humiliation, lui, roi, d'être poussé par la Fronde des parlementaires et la Fronde des princes à quitter Paris dans les conditions dans lesquelles il l'a quitté. Mais on a aussi dit qu'il serait resté à Saint-Germain aussi longtemps, parce qu'il n'est jamais vraiment retourné à Paris, il serait resté à Saint-Germain aussi longtemps qu'Anne d'Autriche vivait. Et on sait d'ailleurs que le château de Saint-Germain a été transformé à plusieurs reprises, a été agrandi. Mais on sait aussi que de Saint-Germain, il allait à Marly, qui n'était pas construit, et qu'il allait à Versailles pour chasser. Donc je crois que la Fronde est un élément détonateur, évidemment, mais il y a sans doute d'autres éléments.
Merci beaucoup.
Merci, monsieur.
Vous avez la parole.
Il y a peut-être aussi le souvenir de son père, le petit château du 13.
C'est possible. C'est possible. Tout à fait possible.
Attendez, on va vous donner un micro. Répétez la question.
Mais il y a aussi le souvenir de son père et le petit château où celui-ci voulait venir chasser avec ses amours avec Louise de Lafayette.
Oui, 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 sûrement. Sûrement. Et la volonté de séduire aussi.
Autre question.
Une question qui est peut-être bête.
Ah.
Mais.
Ah.
Pourquoi vous avez parlé d'Adolf Hitler? Je ne sais pas.
Ah, j'ai... Non, 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 d'Adolf Thiers.
Oui. Ah. Vous avez. Qu'est-ce qu'il a entendu?
On est rassurés.
J'étais complètement perdue.
Alors, en revanche, pour répondre à votre question, madame, non, non, non. En revanche, pour répondre à votre question, en 39-45, les nazis, j'emploie ce terme plutôt qu'un autre, il est plus politiquement correct, ont occupé un certain nombre de bâtiments à Versailles, ce qui était tout à fait logique. Ils occupaient le territoire, ils ont occupé les bâtiments à Versailles. Nul n'est susceptible de dire si le Führer s'est promené à Versailles ou pas, ou du moins, on ne le dit pas.
Excusez-moi, non, mais non, vous savez l'âge, je sais.
Non, non, mais vous êtes tout à fait pardonné, madame. C'est même remarquable que vous ayez pu suivre toute la conférence.
Oui, 88 ans.
Mais je vous en félicite. C'est merveilleux.
Merci bien. Beaucoup.
Bien. Autre question. Plus personne n'a de questions à poser. Ah, si, mon général.
L'avant du mobilier royal.
L'ancien commandant en chef.
L'avant du mobilier royal.
Du palais. L'officier qui est membre de l'académie.
Avait fait que tous ces palais étaient devenus déserts. Donc, la réinstallation a certainement été freinée, car il a fallu réoccuper tous ces palais. Donc, il a fallu combien de temps et que...
Alors, général, je vous remercie de cette question. J'aurais dû, c'est une erreur, pas tout dire, mais c'est une erreur. J'aurais dû effectivement mentionner que la vente du mobilier de Versailles a duré plus d'un an. Il y a un livre qui a été publié, alors on ne le trouve plus aujourd'hui. Si l'un d'entre vous le trouve, ce serait une très belle prise. Il y a un livre qui a été publié il y a 30 ou 40 ans. Sur les ventes révolutionnaires à Versailles. Et vous savez bien sûr que depuis les années 1950-1955, Les conservateurs successifs de Versailles, et notamment, on ne peut que rendre hommage à Gerard van der Kamp et à sa femme Florence van der Kamp, qui était une Américaine, et qui ont lancé ces fondations aux États-Unis qui permettent aux Américains de donner de l'argent pour Versailles en étant exemptés fiscalement. Je ne parle pas des Rockefeller entre les deux guerres, puisque vous posez la question du mobilier et non pas de l'immobilier. Donc, Gerard van der Kamp a été l'un des premiers conservateurs à avoir une politique massive. Je dis ça parce que je ne veux pas porter ombrage aux conservateurs précédents, qui ont une politique plus ponctuelle. Une politique massive de réameublement de Versailles, mais qui a été rendue possible grâce à des soutiens et des crédits qu'il a obtenus. Et encore aujourd'hui, assez régulièrement, en vente publique ou en vente privée, les conservateurs de Versailles procèdent à l'acquisition de pièces d'immobilier qui, vous le savez, portent l'estampille du mobilier royal, qui peuvent être vendues. Et l'un des derniers exemples que je pourrais citer, c'est celui d'une commode qui devait meubler les appartements de Louis XVI, qui a été achetée en vente publique à Londres, à la fois à partir de fonds de l'État, d'une préemption, et à la fois à partir d'une donation faite par Mme François Pinault. Et beaucoup de meubles reviennent à Versailles, aussi grâce à la générosité des donateurs, très encouragés par la Société des Amis de Versailles, qui compte environ 7000 adhérents, étant entendu que les 7000 adhérents ne sont pas tous milliardaires en euros ni en dollars. Merci, Général.
Merci. Bien, autre question ? Bon, s'il n'y a plus de questions, je tiens à remercier Madame Lecomte de cette conférence qui était absolument passionnante et qui, je suivais l'intérêt dans les yeux des participants, a captivé l'auditoire et a permis de poser quelques questions particulièrement intéressantes. Alors désormais, vous savez, au fond, le rôle important que Versailles a joué dans l'histoire de la France à partir du règne de Louis XIV et au-delà, à travers des péripéties parfois difficiles, jusqu'au XIXe siècle. Merci, cher ami, au nom de l'Académie, au nom de mes confrères et au nom de l'auditoire, et merci de votre attention. La séance est levée.
Merci.